Je vous invite à tourner à Luc chapitre 22. Le plan est très simple ce matin. C'est le dernier repas et le premier repas dans ce passage. Pour ceux qui viennent régulièrement, une fois par mois, nous mettons à côté toute autre manière d'adorer le Seigneur et nous visons la personne, le sang, le corps de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, parce qu'il nous a donné comme un impératif de le faire. L'Église qui naît sa Pentecôte, quand il est descendu, le Seigneur était déjà monté au ciel et envoyé le Consolateur. À partir de ce moment, commençait la nouvelle alliance. Plus le sabbat de l'Ancien Testament, toujours le premier jour de la semaine. Et Jésus a inauguré cette monumentale transition dans une seule nuit, la nuit avant sa crucifixion. Il avait beaucoup de choses à accomplir. Il fallait qu'il instruise à ses disciples tout ce que nous lisons entre Jean chapitre 13 et 17, 13, 14, 15, 16, 17 sera cette prière, je reprends le mot monumental, la prière du Seigneur, n'est pas ce que nous appelons le Notre Père. Il ne priait pas le Notre Père lui-même, enfin, en totalité. Il ne priait pas « Pardonne-moi » parce que il n'avait rien. Pourquoi être pardonné? Mais la prière de Jean chapitre 17, dans tout le chapitre, nous ouvre une fenêtre au cœur de Jésus la nuit avant sa crucifixion, après ce qui s'était passé dans la chambre haute. Mais ici, nous sommes dans la chambre haute. Il y avait pas mal de choses à accomplir aussi dans la chambre haute. Il y avait cet enseignement à ses disciples. Il y aurait une confrontation avec l'apôtre Pierre par rapport au Satan qui voulait faire passer au crible pour secouer sa foi. Et cette résistance de la part de Pierre, jamais dans la vie est-ce que je ferai ce que tu suggères que je vais faire. Pas possible. Je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. On peut me trouver mort demain matin. Ma décision est faite. Et Jésus a dit avant que le coq chante, tu aurais nié ton Seigneur, pas une seule fois, mais une fois avec du temps pour réfléchir ce que tu as fait, une deuxième fois avec du temps pour réfléchir ce que tu as fait, une troisième fois avant demain matin. Jésus savait que tout cela serait le cas. N'est-ce pas? Il a tout cela sur son esprit. Le temps arrive. Ils vont se mettre ensemble. Et David, tout à l'heure, a commencé par verset 7. Le jour de pain sans levain, où l'on devrait immoler la Pâque, arriva. Arriva. La Pâque. La Pâque, c'était quoi? La Pâque, c'était le repas qui avait été institué depuis 1500 ans en Exode chapitre 12, après que les Israélites, le peuple de Dieu, avaient cherché à sortir pour adorer le Seigneur, ayant grandi en 450 ans depuis 72 personnes jusqu'à maintenant, plus que 2 millions de personnes. Moïse a été appelé par Dieu d'aller vers Pharaon et dire « Laisse mon peuple partir ». Il fallait 10 plaies, une après l'autre. Le pays d'Égypte a été dévasté. Et enfin, Pharaon, après avoir perdu son propre fils, et comme chaque foyer en Égypte perdu le premier-né, homme et animal, enfin, il laisse partir le peuple. Mais avant de partir, Exode chapitre 12 décrit le repas qu'il devait faire. Bien habillés, avec le bâton dans la main, comme ils allaient prendre la fuite et marcher. Et pendant 1500 ans, les Israélites ont célébré cette fête, et ceux qui ont rejeté le Messie, comme l'a dit tout à l'heure, continuent jusqu'à aujourd'hui, 2014, de célébrer cette fête. Mais Jésus sait que officiellement, cette fête aura lieu ce soir pour la dernière fois. Imaginez ce qui est dans son esprit, dans ses pensées, dans ses préoccupations. Quand nous lisons le jour des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque, arriva. Joseph, le grand historien, au temps de Jésus, dit, si vous pouvez imaginer, cette nuit-là, entre 3 heures de l'après-midi et 6 heures du soir, 3 heures du temps, il y aura un quart d'un million d'agneaux qui seront immolés, égorgés, avec le sang qui descendait dans des tuyaux jusqu'à la rivière Kidron, qui était rouge. 250 000 agneaux dans une soirée immolée pendant que les gens célébraient la Pâque. On n'a pas le temps de voir les multitudes de détails qui se faisaient et ont été annoncés jusqu'au jour même les fêtes que faisaient les Juifs, le fête de Pâques, le fête de Pentecôte, le fête des maisons fabriquées. Plusieurs fêtes que les Juifs célébraient, chacun avec une date précise, et les choses viennent ensemble où Jésus va mourir au même moment où les agneaux sont en train d'être égorgés, sachant qu'il était lui-même l'agneau qui est venu pour ôter le péché du monde. C'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dû être plein d'émotions? Il arrive, verset 7 nous dit, ils arrivent, Pierre et Jean, ils arrivent en verset 14, parce qu'en verset 7, il avait envoyé Pierre et Jean pour trouver la salle. Écoutez, la population de Jérusalem a multiplié 10 fois déjà. Parce qu'il faut que la Pâque soit célébrée. C'était une obligation. On n'avait pas le choix. Tout le monde, tous les hommes avec leurs fils de 12 ans et plus venaient. Dieu avait promis de protéger les femmes et les enfants sans hommes contre tous les ravageurs de l'extérieur. Il avait toujours fait ça jusqu'à ce moment. providentiellement. Et maintenant, ils sont là pour célébrer la Pâque. Jésus n'avait jamais manqué une seule Pâque toute sa vie. Il était à Jérusalem, venant de Nazareth, un long voyage. Tous les ans, tous les ans, tous les ans, avec tous les Juifs, il a fait. Vous le savez que je cherche très souvent de me mettre dans le corps de Christ quand il était jeune. Et souvent, j'en pense, comment était-il quand il n'avait qu'un mois, quand il avait 3 mois, quand il avait 1 an, quand il pleurait comme tous les bébés? Parce qu'il était 100% humain. Il n'était pas 50-50. Il était 100-100. Comment? Eh bien, surnaturellement, il était 100% humain dans un corps qui pleurait pour manger quand il était. Qui ne pouvait pas parler, qui pleurait pour que ses couches soient changées, ne pouvait pas parler, qui ne pleurait jamais en colère, jamais pour des raisons égoïstes. J'avais souvent essayé de penser ça, le temps de sa jeunesse avec ses frères et ses sœurs dans la maison, qui ont dû être jaloux de lui. Ça se manifeste, chapitre 7 de Jean. C'est une jalousie, par exemple. Jésus était 100% Dieu. Il ne faisait pas un seul péché, ni en action, ni en pensée, ni en motivation, en réflexion. Mais il était 100% homme, dans un corps, avec toutes les capacités de se mettre malade, d'avoir des accidents, avec les faiblesses du corps humain. Ce, par contre, que je n'avais pas beaucoup réfléchi, c'était sa connaissance de la théologie juive de l'Ancien Testament, sachant que, écoutez, ce que nous venons de parler, c'était 250 000 agneaux dans une seule nuit, mais le sang coulait tous les jours, tous les jours, tous les jours, depuis Moïse, pendant plus de 1000 ans, les agneaux se sacrifiaient tous les jours, tous les jours. Et savez-vous qu'il fallait qu'ils amènent des sacrifices qu'ils gardaient dans la maison pendant un certain temps, pour qu'ils se voyaient presque comme une partie de la famille. Et cet agneau devait être présenté. Donc c'était quelque chose assez dramatique chaque année, et pourtant ça devient de plus en plus régulier. Tout le monde savait, sans le sang, il n'y a pas de rémission de péché. C'est une religion sanglante. Alors, le christianisme, la foi chrétienne, a souvent été accusé d'être une religion sanglante. C'est 100% vrai. Sans diffusion du sang, il n'y aura pas rémission du péché. Et Christ savait, comme tous les bons juifs, que ce que nous faisons dans un animal prévoit autre chose. Ce que nous faisons dans un animal, ça suffit pas. On aura déjà péché par ce soir. Il fallait tuer encore un autre animal. Et demain matin, ça se faisait au temple, d'abord au tabernacle, après dans le temple. Jour après jour, pendant plus que 1000 ans, 1400 ans au moins. Et ce soir, ça va terminer. Imaginez si vous saviez ça, et si vous étiez présent. Ce soir, c'est le dernier repas de Pâques. Il n'y aura plus de sacrifices, plus de rites, plus de tabernacles, plus de temple, plus de temple, plus de raison d'être. À partir de ce soir, non, demain soir, pardon, à partir de demain, le temple n'aurait aucune raison significative. parce que le temple, comme tous les autres rituels, comme toutes les autres cérémonies, n'était que figuré, n'était que symbolique, n'était qu'un nombre dont la réalité ne s'est pas encore présentée. On voit l'ombre, on regarde, mais la réalité n'est pas encore là. Et Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Qu'est-ce que tout le monde a pensé? Ce n'est pas un agneau, c'est un homme. Et nous savons que les agneaux, tous les jours, perdent leur vie. Des animaux innocents, des animaux qui n'ont pas fait quoi que ce soit de mauvais, mais qui perdent leur vie jour après jour. Et Jean dit, regarde, nous ne lisons pas les faits de ce qu'il a dit. Et s'ils avaient compris qu'ils devaient verser son sang, apparemment, non, parce que quand Jésus était sur la croix, ses disciples étaient absolument abattus. Il n'y avait aucun qui disait, merci Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il l'a fait, il est en train de faire. Non, non, personne ne disait ça. Pierre n'a pas dit ça, Jean n'a pas dit ça, personne ne disait ça. Ils étaient abattus, ils n'ont rien compris, malgré le fait que Jésus avait annoncé ça à plusieurs reprises. Le jour arrive, Jésus envoie Pierre et Jean, ils ne vont pas retourner. Il a dit, et il est très intéressant ici, on n'a pas le temps de aller dans toutes les raisons pour lesquelles les trois prochains versets existent. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous comprenions que les disciples disent, mais où est-ce qu'il faut le faire? Et que Jésus répond, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. Ça sera déjà quelque chose d'anormal. Les hommes ne portaient pas des cruches d'eau, surtout pas en public. C'est les femmes qui faisaient ça. Voici, il y aura un homme, donc ça leur donne une idée quand même, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de monde des hommes qui vont porter en public une cruche d'eau. Et suivez cette personne jusqu'à une certaine maison, il ne donne pas l'adresse. Et j'avais souvent posé la question, mais pourquoi tous ces aspects de secret? Sans doute, Jésus est en train, sachant que les pharisiens et les juifs ont déterminé de l'avoir cette nuit, avant même que la Pâque arrive, préférablement dans une partie de la ville où il n'y a pas grand monde, ou quelque part où la foule ne serait pas impliquée par ce qui va se faire, sachant que Judas a déjà conspiré avec des pharisiens et des scribes pour 30 morceaux d'or, de vendre Jésus, parce que Judas savait où serait Jésus, sauf qu'il ne savait pas où ils allaient manger la Pâque. Jésus a envoyé Pierre et Jean, et nous lisons que l'heure était venue. Et puis, il se mit à table avec les autres. Donc, Jésus venait quelques heures plus tard avec les 10, plus les 2 déjà là. Judas a été avec les 10. Ils entrent dans la maison, montent sur le toit, sur la chambre haute, pas le toit, mais la chambre haute, assez grande pour que 13 personnes puissent être là pour manger. Et puis, voilà, ils sont là. Et puis, c'est maintenant que Judas sait où est le lieu. Jésus ne va pas permettre que Judas parte avant qu'il expose devant les autres disciples son complot. Et nous l'avons lu cela déjà ce matin, n'est-ce pas? Donc, Jésus a du travail à faire. Quand nous lisons, en verset 24, il se leva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Tout ce qui est dans l'esprit de Jésus, tout doit marcher comme il faut. Les pharisiens ne devraient pas savoir où il est, parce qu'il y a des choses qui doivent absolument se faire avant qu'il soit arrêté. Et plus que vous suivez les détails, même des détails qui sont bien écrits dans les évangiles, plus que vous devez vous émerveiller en adoration. Jésus dit, personne ne me ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Personne n'a rien à faire, ni avec l'un, ni avec l'autre. Quand le moment arrive, je vais mourir. Il y a beaucoup qui voudraient que nous pensions que Jésus était la victime d'une bonne idée qui est mal tombée, qui est tombée dans l'eau. Il était une victime de ces circonstances. Il n'avait pas pensé que ça allait terminer comme cela. Ah si, il avait prévu, il avait dit au moins 4 fois déjà à ses disciples, l'heure arrive, il n'a pas le dire à sa montre, l'heure arrive, oui, le moment arrive où tout l'Ancien Testament préfiguré qui déversait sur ce moment historique, où la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance aura lieu. Les pharisiens cherchaient de leur mieux de faire tuer Jésus avant. Mais ils ne pouvaient pas, et la raison s'est donnée, parce que son heure n'était pas encore arrivée. C'est merveilleux. Et maintenant, ce n'est pas une exception. Les chefs veulent à tout prix prendre Jésus, si possible, avant qu'il fasse la Pâque. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'il reste des choses à faire. Ils vont tous être faits. Et pendant ce que Jésus est en train de réfléchir, les disciples parlent fort. Irritation est dans l'air maintenant. Jésus écoute. Ils sont en train de disputer par rapport à leur importance. Pourquoi ils discutaient cela? Mais facilement, comprendre, Jésus annonce que c'est le dernier Pâque. Il l'avait déjà fait avant ce 24e verset. C'était dans notre lecture. On revient. Ils savent, ils ne vont plus manger la Pâque. Ils savent pourquoi la Pâque représente. Ils savent que la Pâque représente le Messie qui allait venir. Ils avaient une tête remplie des idées messianiques. Et pour eux, ça n'a rien à faire avec une crucifixion, ça n'a rien à faire avec une humilité, ça n'a rien à faire avec la moquerie de leur Messie, bouche fermée, qui accepte les battements et les flagellations et les cris, les hurlements de joie de gens autour de lui, sans qu'ils disent rien du tout. Non, 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 ils n'acceptent pas ça. Il n'accepte pas ça jusqu'à présent. Mais l'Ancien Testament avait prévu ça. Et Jésus le savait. Et Jésus savait que c'est lui où allait un jour tomber la colère de Dieu. Attention, quand vous pensez colère, pensez jugement constant, prévoyable, pas une caprice d'un Dieu qui en avait finalement marre de quelque chose. Mais ce qui avait été prévu depuis avant la fondation du monde, ça arrive, 1500 ans, progression, révélation, millions et millions et millions de bêtes égorgées en attendant l'agneau qui ôte tous ces péchés qui n'ont que à être couverts attendant ce moment historique. Oh chrétien, ça c'est les faits historiques sur quoi la foi chrétienne est fondée. une des raisons que nous mettons pas mal d'accent de validifier les faits dans l'Ancien Testament qui sont historiquement documentés et démontrés d'être fiables, y compris cette période de transition où Jésus fait son apparition, il fait son embarquement, non, débarquement, comme en Normandie, dans la planète, pour commencer 33 ans de vivre selon la loi et d'aller vers Jérusalem, le moment où il a décidé avec le Père avant l'éternité passée, sera le temps, le 14 Nissan, qui est toujours célébré aujourd'hui, la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire la Pâque? Ça veut dire passer au-dessus. Laissez-moi vous lire. Qu'est-ce qui se passe dans un repas de Pâques? 10 choses. Le repas commence et ça dure du temps. Ça dure des heures, normalement. Et ils ne sont pas assis à table dans le sens que nous mettons à table. La table est ou est très 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 bas, ou c'est juste sur une nénette, sur là, et ils ont la tête et les bras devant. Et ils sont allongés avec les pieds le plus loin possible de la nourriture, ça se comprend. Et puis, ils sont en train de manger. Ça peut durer 3 heures, ça peut durer 4 heures. Et dans ce temps, ils commencent la soirée par une prière de remerciement pour l'année, pour la délivrance, pour la protection, pour la bonté, pour la bénédiction. Et après, ils vont passer 4 fois une coupe de vin très dilué avec de l'eau parce que il faut qu'il soit pas inivré. Ils vont passer du vin. Après ça, il y a un lavement de main cérémonieuse. Après ça, ils vont manger des herbes amères qui symbolisent leur esclavage amer en Égypte. Après ça, ils vont chanter le Hallel. Le Hallel, c'est une séquence des psaumes à travers 113 jusqu'à 118. Et ils vont ici chanter 113 et 114. Pas le temps de le regarder, mais vous pouvez le faire à la maison. Après, il y a un prochain verre de vin dilué. Après, le père de famille, si c'est dans une famille, ou le chef du groupe, comme ici, vont répéter le Agada, c'est-à-dire c'est un récit de Exode 12, de la délivrance. Ils vont écouter cette histoire récitée. Après ça, ils vont manger un autre verre de vin, ou au moins une petite goutte. Après ça, ils vont manger l'agneau, le plat principal, qui avait été préparé sans casser aucun os. Après ça, ils vont chanter psaume 115 jusqu'à 118. Il y aura un quatrième verre de vin. Et entre ces choses, ils discutent, ils se rigolent, ils sont révérentes, mais ce n'est pas juste un rituel pendant quelques heures. Non, ils parlent de choses familiales et ils se font une belle soirée. Ils font ça jusqu'à présent, aujourd'hui, chez les Juifs. Mais le temps est arrivé où on va faire ça pour la dernière fois. On va officiellement faire ça pour la dernière fois. Vous pouvez continuer à faire des rites comme vous voulez, mais à partir de ce soir, il n'y aura plus de sens de faire ça. Ça ne serait que 100% traditionnel, plus rien. Ce n'est plus commandé par Dieu. Mais ce soir, c'est commandé par Dieu. Le voile du temple n'a pas été encore déchiré. Demain à 15h, ça sera déchiré. Mais maintenant, Jésus, sous la loi, avec ses disciples, obéissent, performent leur rituel et cérémonie comme un bon juif. Et Jésus doit être plein d'émotions. Je vais vous lire quelque chose d'un commentateur que je vais faire une traduction libre de l'anglais, qui disait « Ce n'est pas une surprise pour Jésus qu'il allait souffrir le lendemain. Il sait exactement quand. Il sait qu'il n'y a que quelques heures maintenant. Il sait qu'il sera arrêté cette nuit. Il sait qu'il va passer à travers des procès de moquerie et humiliation pendant la journée demain. Il sait qu'il sera accroché sur une croix. Il sait qu'il sera mort avant que le soleil couche et dans un tombeau avant que le soleil couche. Demain, il sait tout ça. Ce n'est pas une surprise. Mais cette nuit, il doit remplir toute justice qu'il avait dit il y a 3 ans à Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste refusait de lui faire baptiser. Et il dit, non, il faut que tu me baptises pour ce moment, parce qu'il faut que ce que je fais maintenant soit une partie de l'accomplissement de toute justice, parce que Dieu est un Dieu juste. Il n'y a aucun péché qui va être balayé en dessous de la moquette de sa bénévolence. Chaque péché doit être payé. Jésus disait, il faut que toute la justice soit accomplie par mon baptême, l'agneau de Dieu qui n'a fait rien de péché. Jean-Baptiste qui disait, mais il faut que vous me baptisiez, le pécheur, moi le pécheur, pas moi le pécheur, baptisez le Fils de Dieu qui n'a rien fait du mal. Non, vous devez me baptiser. Maintenant arrive, la justice de Dieu sera accomplie, mais le commandement de Dieu reste, Exode 12 n'a pas encore été révoqué, et voici le Pâques. Il célébrait cela chaque année de sa vie, et celui-ci serait le plus puissant, le plus émotionnel, le plus lucide, le plus dramatique qu'aucune autre Pâques a jamais été dans sa vie, parce que tous est prêt maintenant de se déverser sur sa tête dans juste quelques heures, et il sera tué comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Et le commentateur disait à côté, je ne peux même commencer à imaginer la puissance de cette émotion qu'il a dû sentir et qui commençait à sortir et qui allait même jusqu'au moment où il serait dans le jardin, avec des sueurs de sang qui sortent de lui, tellement il était pris et préoccupé. Et puis il dit, en verset 14, je recule si vous aimeriez, l'heure est venue, il se mit à table avec les apôtres, et verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Il est impossible en français ou en aucune langue presque de voir les « je désire vivement ». Ce n'est pas le mot « vivement », c'est le mot « désiré répété ». Mais le mot « désiré », c'est le même mot qui est utilisé pour « convoiter » ou « convoitise ». Le mot convoitise, c'est un mot entièrement neutre avant que le contexte donne ou un sens positif ou négatif. Ça veut dire un fort, fort, fort désir, presque incontrôlable. Et ça se dit 2 fois. C'était une manière juive de souligner quelque chose de très important. Jésus dit, j'ai désiré manger cette Pâque, pas l'année prochaine, pas l'année dernière, maintenant, aujourd'hui, avec vous, avant de souffrir, parce que, verset 16, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une, à titre indéfini, parce que nous sommes en train maintenant de parler de dernier repas. Ici, ce n'est pas le premier repas. Une coupe est rendue grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Est-ce que c'était le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième? On ne le sait pas, il ne le dit pas. Mais voilà, peut-être un des derniers, ou le dernier. Certains pensent que c'était un autre, avec des raisons, mais c'est spéculation de toute façon. Mais faites cela parce que, verset 18, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, alors, ça c'est le premier repas. Le premier repas va annuler 1500 ans de tradition, de préparatif, parce que l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde est venu. Ensuite, il prend du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit le pain, il leur donne et il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il ne veut pas que nous comprenions que ça va littéralement devenir son corps, comme certaines pensent, certains insistent beaucoup. Jésus parlait tout le temps en métaphore, en langage parabolique. Jésus disait, je suis la porte, ce qui entre par moi sera sauvé. Je suis la vigne, ça ne veut pas dire qu'il est une plante avec des feuilles. Je suis le pain de vie. Plein de choses où Jésus, comme il est en train de dire maintenant, je vais vous donner un symbole. Il a pris le pain et dit, voici mon corps. Verset 20, il prend la coupe. Il n'a pas dit, ceci est mon sang. Vous avez remarqué ça? Mais il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang. Donc, si on insiste sur un littéralisme absolu, voilà, c'est ce que je cherche, il faut que le pain soit le corps et que le sang soit une alliance. Ça, c'est un peu ridicule et on ne le fait pas. Les deux symbolisent, les deux préfigurent quelque chose qui sera le cas le lendemain, la mort de Jésus-Christ. Donc, ils avaient fini avec la dernière cérémonie exigée par la tradition et par la loi. Jésus, donc, commence par ce simple repas où il prend le pain et puis il prend le vin. Et puis distribue par dire, ceci est mon corps qui est donné pour vous demain à partir de 15 heures. Faites ceci en mémoire de moi. Il prend la coupe en leur donnant cette coupe et la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Pendant qu'il parle, verset 22, voyez verset 22, il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et il commence, les gens, à se poser la question, est-ce que c'est moi? Judas pose aussi la même question. Et puis, je suppose que probablement, parce que je fais un peu de spéculation ici, parce qu'il n'est pas marqué, pourquoi ils ont choisi ce moment de se mettre en contestation par rapport au mieux, ou par rapport à ce qui est le mieux. Peut-être, il dit, est-ce que c'est moi? Certainement pas moi, pur que je suis. Hein? Personne ne pensait que c'était eux. Personne, tout le monde, au dernier homme, son Judas, pensait « Je ne pourrais jamais faire ça ». En fin de compte, si jamais son royaume commence demain, qui apparemment, ça sera le cas, parce que maintenant on a fini le dernier, on commence de nouveau, ça doit dire avant demain, surtout avant l'année prochaine, il n'y en aura plus. Il va établir son royaume, je dois me positionner pour être le premier ministre, sinon, si pas ça, au moins le secrétaire de l'État ou quelque chose comme ça. Chacun cherche à manifester leur bien. Et Jésus, pris par la préoccupation de ce qui est en train de se faire devant ses yeux, pas incontrôlable, Jésus contrôle chaque détail. Il sait quand il va sortir. Il sait quand il va aller dans le jardin de Gethsémané. Il sait quand Judas va arriver avec un baiser de traître. Il sait tout ça. C'est lui qui a organisé les faits avec son Père depuis l'éternité passée. On a besoin de réfléchir comme cela, chers amis. De ne pas prendre comme juste une formalité religieuse. Il y a un sens dont l'apôtre Paul dit, et je vous invite de tourner en 1 Corinthiens chapitre 11, le chapitre que chaque mois, normalement, on voit. Parce que Paul va donner des explications une trentaine d'années plus tard. Quand il dit en verset 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Et ça, c'est quoi? C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, rompa, et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25, 1 Corinthiens 11, 25, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Parce que, 26, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et il va revenir. » Le problème des Juifs, ils voyaient le retour du Seigneur, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un premier venu. Comme certains l'ont dit, c'est comme vous êtes sur une montagne, il y a une deuxième montagne, mais vous ne savez pas qu'il y a encore une vallée avant qu'il y ait une troisième montagne. Il y a une lumière sur la deuxième montagne, il y a une lumière sur la troisième montagne, mais vous ne voyez qu'une seule lumière. Mais quand vous arrivez à la première lumière, vous voyez qu'il y a une vallée. Christ est venu, la lumière du monde. Il est venu pour passer 33 ans sur la planète en ayant été essayé et tenté par Satan et bousculé par toutes les lois. Et quand il arrive à la fin de sa vie, le dossier est ouvert pour voir s'il est méritant de se présenter parfaitement devant Dieu. Page après page, après page, après page, jusqu'à la loi soit fermée. Et le juge marque rien contre lui. Il est justifié par la loi. Oh, chrétien, nous aimons dire ça. Christ est justifié par la loi afin que nous puissions être justifiés par la quoi? Je recommence. Christ est justifié par la loi afin que le chrétien puisse être justifié par la foi. La foi. Sinon, aucune justification. Christ le sait ce qui est en train de se faire. Et ça arrive. Et Paul, l'apôtre, des années plus tard, en instruisant l'Église, il dit, parce que chaque fois que vous mangez, chaque fois que vous buvez, vous annoncez la mort jusqu'il revienne. C'est pourquoi, verset 27, que celui qui mange le pain et, ou boire la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire de manger indignement? Qui c'est ici qui est digne de boire? Pas moi. Je crois que c'est un verset qui a troublé pas mal de chrétiens. Parce que on sait bien, on est loin de parfait, au mieux. Indignement veut dire tout simplement de voir avec une autre perspective, de voir, de prendre robotiquement, de prendre comme une formalité de la religion, de ne pas avoir rien à faire avec ce que nous essayons de faire maintenant, de réflexion, de méditation sur les réalités de ce qui est en train de se faire. Jésus est en train de devenir la justification de chaque personne qui met leur foi en Christ. Et il n'y a aucune chose qui dit « je suis croyant mais pas pratiquant » parce qu'il est impossible d'être croyant sans pratiquer. Et par pratiquer, ce n'est pas juste une performance religieuse une fois par semaine ou 10 fois par semaine. Ça n'a rien à faire avec une performance mécanique ou robotique. C'est une relation intime avec une personne et le chrétien travaille pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Il aime le Seigneur. Chers amis, on peut faire beaucoup de fêtes, on peut faire beaucoup de bruit, on peut danser, on peut s'égayer, on peut rentrer avec beaucoup de sourires à la maison. Ça ne sauve personne. Ça n'alimente pas aucune personne. C'est la personne de Jésus-Christ qui sauve, qui est la nourriture, qui a la raison d'être pour chaque chrétien. Jésus a dit à Pierre, « Pierre, ce n'est pas ta fidélité qui te sauve. Tu vas me nier. » Non, jamais. Oui, tu vas le faire. 3 fois même. Et Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce qu'ils vont te suivre. Mais quand tu seras converti, viens à côté d'eux, affermer tes frères, parce qu'ils en auront besoin. C'est ce que Pierre a fait pendant le restant de sa vie. Bon, il y a plein d'autres choses à dire, mais on va arrêter ici, parce que c'est le moment de dans la simplicité de cet premier repas, la dernière accomplie, la première commence. À partir du moment où le voile était déchiré du haut jusqu'en bas, plus de temple, plus de lieu saint, plus de lieu très saint, plus de voile, tout cela symbolique, attendant la réalité. La réalité est venue historiquement. Et il est ressuscité le 3e jour, comme il avait prédit, comme le tampon et confirmation qu'il avait le droit de faire ce qu'il a fait. La seule personne qui peut annoncer sa mort et qui peut aussi annoncer sa résurrection, le moment précis, et qui dit, il n'y a personne qui le fait. Je le fais. Et je me ressuscite. Et maintenant, je vous offre le salut en Jésus-Christ. Et si Christ est devenu votre votre roi.
Je crois que si je peux le trouver, je vais vous montrer une chose pour terminer.
Et ça, tout à fait avec.
C'est une chose que j'ai lu de A.W. Tozer. C'est un serviteur de Dieu qui est mort depuis une soixantaine d'années maintenant.
Mais parlant de le jeu de la religion,
on joue ce jeu. Je peux tourner ça un petit peu.
Il y a aussi
toute la table, oui. Un peu, voilà, c'est bon.
Il a dit, la plupart des gens de l'Église, globalement, pas tous, jouent à la religion comme ils jouent à leur jeu. La religion elle-même est le seul jeu le plus universellement joué. L'Église a ses terrains, ses règles, son équipement pour jouer le jeu de la religion. Elle a ses fidèles, ses laïcs, ses professionnels qui soutiennent le jeu avec leur argent et l'encouragement de leur présence, mais qui ne sont pas différentes dans la vie de tous les jours, dans leur caractère, différents que ceux qui ne s'intéressent pas du tout dans la religion. Comme un athlète utilise un ballon, ainsi beaucoup de nous utilisent des paroles religieuses. Nous les lançons rapidement à travers le terrain et apprenons à les manipuler avec dextérité et grâce. En tant que récompense, nous gagnons les applaudissements de ceux qui ont apprécié le match. Dans les jeux mondains dont les gens jouent, il n'y a aucun avantage moral. Ils sont tous simplement des activités agréables qui ne changent rien et qui ne règlent rien d'importance. Tristement, il est pareil dans le jeu de la religion. Après la rencontre agréable, personne n'est fondamentalement différente de ce qu'il avait été avant. Termine Passif et Malachi, chapitre 1, verset 10, dernier livre de l'Ancien Testament. Aussi seulement un de vous fermerait les portes pour que vous n'allumiez plus en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. C'est ça que ça veut dire, de manger indignement. Ce n'est pas que nous ne sommes pas méritants. Ce n'est pas une question de qualité méritant. C'est une question d'approche dans l'humilité, reconnaissant que Christ est mon salut à 100%. Je n'ai rien fait. J'ai péché hier. Et je risque de pécher demain. Mais le sang de Christ m'a sauvé de mes péchés. Christ est mon salut. C'est son sang, pas ma justice, son sang qui m'a donné sa justice. Quand vous réalisez cela, vous pouvez prendre dignement la Sainte Sainte. Je ne dis pas que tout le monde devrait le faire, au contraire. Si vous n'avez pas la certitude que Christ est votre Seigneur et Sauveur et votre Maître, ne prenez pas indignement. Ça c'est, je suis chez les chrétiens, chez les protestants, chez les baptistes, je ferai comme des baptistes. S'ils partagent la Sainte Sainte, je ferai avec eux aussi. Non, non, non. Il vaut mieux pas. Parce qu'il va plus loin par dire, c'est pourquoi celui qui mange la coupe indignement sera coupable envers le corps de Christ. Que chacun donc s'éprouve, verset 28, soi-même, et qu'ainsi qui mange du pain et qui boive de la coupe. Prions Dieu.